VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 28 septembre 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. En Guinée, début du procès de Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés sur le massacre du 28 septembre 2009. Les chefs d'État de la CEDEAO ont attendu demain jeudi à Bamako pour tenter d'obtenir la libération de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Manifestation de policiers en Tunisie pour réclamer la libération de collègues. La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après le sabotage du gazoduc Nord Stream. L'ouragan Yann se rapproche de la Floride avec des rafales pouvant atteindre 250 km/h. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et l'Espoir, mais tout d'abord le journal. En Guinée, l'ancien président Moussa Dadis Camara est jugé à partir de ce mercredi avec une dizaine de co-accusés du massacre dans un stade le 28 septembre 2009 à Conakry. Le point avec Claire Morin-Jibou.
Le tribunal, construit exprès pour ce procès, a été inauguré ce matin par l'actuel chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, avant l'audience criminelle. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président autoproclamé à l'époque, et une dizaine d'autres anciens militaires et gouvernementaux comparaissent pour assassinat, violence sexuelle, enlèvement, incendie et pillage. Le 28 septembre 2009, les bérets rouges, l'élite de la garde présidentielle, les policiers, gendarmes et miliciens ont attaqué quelques 50 000 personnes réunies dans un stade pour un rassemblement de l'opposition. Ils ont tiré à balles sur la foule pour chasser les fuyards dans les rues de Conakry. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. Au moins 109 femmes ont été violées en public, selon une commission d'enquête de l'ONU. Quelques deux mois après ce massacre, le capitaine Camara échappe à une tentative d'assassinat. Il a été traité au Maroc et depuis 2010, il vivait en exil au Burkina Faso. Moussa Dadis Camara est rentré ce week-end à Conakry et hier, il a passé sa première nuit en prison avant l'ouverture de ce procès, attendu depuis 13 ans.
La mission de haut niveau dépêchée au Mali par la CEDEAO pour dénouer la crise avec la Côte d'Ivoire est attendue demain à Bamako, indique un document du gouvernement malien. Cette commission est composée des présidents togolais Fornia Singbe, ghanéen Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow et non pas le sénégalais Macky Sall comme annoncé initialement. Les dirigeants de la CEDEAO avaient décidé jeudi dernier, lors d'un sommet extraordinaire à New York, d'envoyer cette mission pour trouver une issue à la crise avec la Côte d'Ivoire. Au Tchad, une commission a demandé au dialogue de réconciliation nationale de prolonger de 2 ans la transition vers des élections, maintenir à la tête de l'État le chef de la junte militaire et l'autoriser ensuite à briguer la présidence dans les urnes. En l'absence d'une grande majorité de l'opposition politique et des organisations de la société civile qui le boycottent, ainsi que de 2 des 3 groupes armés rebelles les plus puissants et les plus redoutés, il y a peu de chances que le dialogue national rejette ces propositions. Mais un des responsables de l'organisation sous couvert de l'anonymat a affirmé à l'AFP que la date de la clôture prévue le 30 septembre ne pourrait pas être tenue en raison de nombreux débats encore à venir avant l'adoption de toutes les résolutions. La Cour d'appel de Paris a confirmé du moins ce mercredi le renvoi aux assises du médecin rwandais Eugène Rwamucyo pour génocide et crimes contre l'humanité. Monsieur Rwamucyo, 63 ans, avait été renvoyé en octobre 2020 devant les assises pour sa participation au génocide rwanda. Il avait fait appel de l'ordonnance des juges d'instruction. En RDC, 34 personnes, dont 16 enfants, sont mortes lundi dans l'accident d'un camion de marchandises qui transportait aussi des passagers sur une route d'une région enclavée du sud-est. Le camion chargé de marchandises de 93 passagers n'est pas parvenu à monter une côte et s'est renversé, a expliqué Célestine Lundanda Panga, administrateur du territoire de Louboudi, dans la province de Lualaba. En Tunisie, plus de 200 policiers ont manifesté ce mercredi à Sfax, dans le centre-est. Ils ont dit défendre leurs droits syndicaux et réclamer la libération de 8 de leurs collègues arrêtés il y a 5 jours lors d'un autre mouvement de protestation. Mohamedou Mfa nous en dit plus.
À l'appel du syndicat national de la sécurité intérieure, des policiers en civil se sont rassemblés au centre de Sfax, la deuxième plus grande ville de Tunisie, pour demander que leurs collègues soient relâchés. Les manifestants ont dénoncé une volonté de harcèlement et d'étouffer le droit syndical. Le ministère de l'Intérieur ne veut pas travailler en respectant la loi. Il travaille sous les instructions du président Kais Saied, a lancé un membre du syndicat devant la foule. Non aux instructions, le syndicat est libre, ont scandé les manifestants. Cette manifestation faisait suite à une autre qui a eu lieu vendredi dernier, au cours de laquelle 8 agents de police ont été arrêtés et placés en détention à Sfax sur ordre d'un tribunal militaire. Leur syndicat avait installé 32 tentes sur l'ensemble du territoire tunisien et refusé d'obtempérer aux ordres d'autres policiers déployés par les autorités pour disperser le mouvement. Depuis la chute du régime de Ben Ali en 2011, les policiers ont le droit de s'organiser en syndicat. Des ONG et de l'opposition accusent les services de sécurité de recourir à des méthodes rappelant celles de l'État policier sous Ben Ali depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie va demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet des fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 après avoir sommé le président Joe Biden de dire si les États-Unis étaient à l'origine de ce qui pourrait être un sabotage. Washington parle d'accusations ridicules. Les précisions avec Abdourahman Dia.
C'est ridicule de la part de la Russie d'insinuer que les États-Unis pourraient être responsables des fuites sur les gazoducs Nord Stream, a commenté ce mercredi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrienne Watson. Un peu plus tôt, la diplomatie russe avait demandé des réponses à Joe Biden sur l'origine de ces fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Pour sa part, Kiev dénonce une attaque terroriste planifiée par la Russie contre les pays européens. Mais le Kremlin a rejeté ces accusations, affirmant qu'il était stupide et absurde de soupçonner la Russie d'être derrière ces fuites massives. L'Union européenne a, elle, promis la réponse la plus ferme face à toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes. Selon l'Institut sismique suédois, deux explosions sous-marines, très probablement dues à des détonations, ont été enregistrées à proximité des fuites avant leur détection, sans pour le moment en déterminer leur origine. Les fuites détectées sur les gazoducs éloignent la perspective d'une reprise prochaine de ces livraisons de gaz vers l'Europe.
La diplomatie russe a affirmé aujourd'hui que les 4 régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou ont fait un choix libre en faveur de la Russie en votant pour leur annexion lors de référendums dénoncés par Kiev et ses alliés occidentaux. Les référendums d'annexion organisés par Moscou dans 4 régions ukrainiennes ont été dénoncés comme des simulacres et scrutins illégaux par les Occidentaux. Le G7 a juré de ne jamais en reconnaître les résultats et Washington et l'Union européenne ont promis une réplique sous forme de sanctions supplémentaires visant Moscou. Après avoir dévasté l'ouest de Cuba, l'ouragan Ian se dirige vers la côte ouest de la Floride, ici aux États-Unis, avec des rafales de plus de 250 km/h. Il s'intensifie et pourrait causer des inondations catastrophiques, indique le service météo américain. Le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, a averti qu'il pourrait se transformer en catégorie 5. Nathalie Barge.
3000 membres de la garde nationale sont mobilisés en Floride et 1800 autres vont les rejoindre, a indiqué le Pentagone. 45 cm de précipitations sont attendues dans le centre et le nord-est de l'État et jusqu'à 60 cm par endroit, selon le Centre national des ouragans. Des ordres d'évacuation ont été donnés la nuit dernière dans plusieurs régions sur la côte. Le président Joe Biden a approuvé une aide d'urgence fédérale pour 24 des 67 comtés de Floride. L'activité est interrompue dans certaines zones et l'aéroport de Tampa a suspendu ses opérations. La NASA a renoncé au décollage prévu hier de sa méga-fusée pour la Lune depuis le centre spatial Kennedy. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a demandé aux populations de ne pas sortir lors du passage de l'œil de l'ouragan. Avant de se diriger vers le golfe du Mexique, l'ouragan a dévasté l'ouest de Cuba pendant 5 heures et l'île de plus de 11 millions d'habitants s'est retrouvée sans électricité.
En Iran, la police a averti aujourd'hui qu'elle agirait avec toute sa force face aux manifestations déclenchées par la mort en détention d'une jeune femme et dont la répression a déjà fait des dizaines de morts. De nouvelles manifestations ont eu lieu mardi soir contre la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran. Et puis le pape François se rendra à Bahreïn du 3 au 6 novembre dans le cadre d'un forum du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé vouloir tenir des pourparlers avec l'Inde pour garantir son approvisionnement en riz. Début septembre, l'Inde a interdit les exportations de brisures de riz et imposé un droit de 20% sur les exportations. La consommation de riz au Sénégal dépasse les 2 millions de tonnes et le pays ne produit que la moitié du riz qu'il consomme. Le président sénégalais a argué que le Sénégal devait bénéficier d'une exemption car il exporte de l'acide phosphorique, ce qui permet à l'Inde de fabriquer ses engrais. Au Mali, le gouvernement a lancé le projet CIR, ou cadre intégré renforcé, pour renforcer la production et la commercialisation des produits locaux, des filières dites porteuses, notamment la mangue, le karité, la gomme arabique, le bétail viande et le sésame. L'objectif de ce projet est d'augmenter les capacités d'offre des produits maliens sur les marchés internationaux pour réduire la pauvreté. Au Cameroun, la deuxième phase des investissements projetés concernant le développement du port de Kribi a été signée. Le port en eau profonde va bénéficier d'un nouveau quai de 715 mètres et de nouveaux équipements, ce qui va permettre de tripler sa capacité et atteindre le seuil du million de conteneurs manutentionnés.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football avec la fin hier des matchs amicaux disputés par les sélections africaines.
Oui, avec un doublé de Rafinha et un pénalty de Neymar, le Brésil a surclassé 5-1 une Tunisie réduite à 10. Les Aigles de Carthage avaient brièvement égalisé par Motassar Omar Talbi à la 18e minute, mais ont été trop vite plombés par l'exclusion de Dylan Brown. À la 42e minute, un but partout entre le Sénégal et l'Iran. 2-2 entre le Togo et la Guinée équatoriale, le Cameroun s'est incliné 1-0 devant la Corée du Sud. Défaite 1-0 également du Ghana face au Nicaragua. 0-0 entre le Maroc et le Paraguay. La RDC a battu la Sierra Leone 3-0. L'autre Congo s'est incliné devant la Mauritanie 2-0. La Côte d'Ivoire a battu la Guinée 3-1. Le Burkina Faso a pris le dessus sur les Comores 2-1. Même score en faveur de l'Algérie devant le Nigeria.
Le Brésilien Richarlison cible d'un jet de banane lors du match Brésil-Tunisie.
Alors qu'il venait d'inscrire le deuxième but du Brésil dans cette rencontre de préparation au Mondial 2022, l'attaquant brésilien a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane qui a atterri sur la pelouse. L'air contrarié, Richarlison est retourné se replacer après avoir fêté son but avec ses équipiers. Il a fustigé ce qu'il qualifie de blablabla des dirigeants dans la lutte contre le racisme et appelé à davantage de sanctions contre ce genre de gestes. La fédération brésilienne a condamné cet incident. À Tunis, la fédération tunisienne de football a déclaré qu'elle condamne fermement tout acte raciste dans les stades. Elle a ajouté que l'écrasante majorité des supporters tunisiens ayant assisté au match se sont comportés d'une manière exemplaire.
John Obi Mikel prend sa retraite.
Le milieu international nigérian, 89 sélections, a annoncé qu'il met un terme à sa carrière à 35 ans. Il y a un dicton qui dit que toutes les bonnes choses ont une fin et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est arrivé, a écrit John Obi Mikel dans son long message posté sur Instagram. Joueur polyvalent, Obi Mikel a effectué l'essentiel de sa carrière à Chelsea qu'il a déniché au sein du modeste club norvégien de Lyn Oslo. Chez les Blues, il a disputé 372 matchs entre 2006 et 2017 et s'y est construit un solide palmarès avec deux titres de champion d'Angleterre. En 2010 et 2015, un sacre en Ligue des champions en 2012 et un autre en Ligue Europa en 2013. Le club de Chelsea a salué sur Twitter les souvenirs partagés avec son ancien joueur en lui souhaitant une bonne retraite. Avec sa sélection nationale, Obi Mikel a été sacré champion d'Afrique en 2013.
Page des sports VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le procès des massacres du 28 septembre s'est ouvert à Conakry. Parmi les accusés figure l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara. C'est un espoir pour les victimes qui vont entendre les témoignages sur les exactions qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes qui manifestaient le 28 septembre 2009 contre une éventuelle candidature du capitaine Dadis Camara. On fait le point avec notre correspondant, Zakaria Camara.
Devant les écrans géants et au pied des marches menant à la toute nouvelle salle d'audience du tribunal ad hoc, quatre discours ont été prononcés à l'occasion de la double cérémonie, inauguration des installations et ouverture des audiences. D'abord, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Djibril Kouyaté, a souhaité que des massacres de masse ne se reproduisent plus jamais en Guinée.
Le succès de ce procès reposera en grande partie sur l'indépendance des juges, l'indépendance judiciaire. Il faut le rappeler, est un des piliers sur lesquels repose l'état de droit. Le juge du procès du 28 septembre doit être indépendant. Cette indépendance est importante parce qu'elle garantit que les juges guinéens sont libres de décider honnêtement et impartialement selon le droit et la preuve, sans contrainte d'ingérence, de contrôle ou d'influence abusive de la part de qui que ce soit.
Selon une enquête des Nations Unies, il y a eu plus de 150 morts. 109 femmes ont été violées au stade du 28 septembre de Conakry. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Pramila Patin, ce procès va permettre de tourner la page de l'arbitraire.
Le dossier du 28 septembre constitue un véritable baromètre de la volonté du pays à faire face à son passé, ce qui devrait renforcer la cohésion sociale et favoriser une réconciliation nationale véritable. Je formule le vœu que tous les acteurs du procès seront à la hauteur de l'événement et leur réaffirme mon soutien pour le noble travail qui les attend.
Le procès s'ouvre 13 ans après les exactions. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme salue la volonté politique et rassure Alphonse Charles White.
Le président de la transition, chef de l'État, avait pris la responsabilité politique devant le peuple souverain de Guinée, a déterminé avec précision les axes stratégiques de la refondation de l'institution judiciaire à travers une politique pénale cohérente basée sur les valeurs d'impartialité, d'intégrité, de redevabilité et surtout de rigueur. Est-il important de rappeler devant la communauté nationale et internationale que la politique pénale de notre pays n'est pas celle de la complaisance.
Pour les victimes, c'est un moment d'espoir.
J'aimerais que les bourreaux soient traduits à la justice et qu'ils soient condamnés.
On va dire Dieu merci, on attend, on ne fait que attendre pour témoigner.
Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a assisté à l'ouverture du procès à Conakry. Une douzaine de personnalités militaires et civiles, dont l'ancien chef de la junte, sont inculpés et poursuivis pour, entre autres, meurtre, viol, coups et blessures volontaires, enlèvement et séquestration. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Burkina Faso, une attaque perpétrée lundi par des djihadistes présumés à Gaskindé, dans le nord du pays, a fait au moins 11 soldats tués et 50 civils portés disparus. C'est un convoi de ravitaillement escorté par un régiment de l'armée à destination de Djibo qui a été pris pour cible dans cette région du Sahel. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou l'analyste Siaka Traoré.
Ce n'est pas tellement une surprise dans la mesure où rien n'indique que les terroristes ont cessé leurs opérations sur le territoire burkinabé. Avant cette attaque, il y a eu quelques attaques encore et l'on sait très bien que les terroristes sont toujours présents et continuent leurs opérations sur le territoire. Ce qu'on peut noter, c'est peut-être que l'attaque soit de cette envergure et que l'armée n'ait pas pu assurer une riposte suffisante pour au moins porter des pertes également aux terroristes. C'est plutôt ça qui intéresse aujourd'hui. Autrement dit, le principe des attaques n'est pas encore arrêté. Et probablement, il y aura d'autres attaques après celle-ci.
Un témoin que nous avons joint au téléphone parle de militaires trop jeunes et mal équipés. Justement, vous évoquez l'aspect de riposte. On se demande pourquoi un tel convoi de plus de 150 véhicules n'est pas autant sécurisé.
Là, on rentre dans l'aspect opérationnel du convoi. Les responsables des FDS organisent comme ils peuvent. Hein. Je pense que la jeunesse des soldats n'est pas forcément un argument parce que les soldats sont recrutés à un âge qui a toujours été le même. Donc on peut plutôt parler de moyens matériels, notamment la couverture aérienne ou l'appui en puissance de feu, peut-être d'un autre groupe, peut-être le détachement de Djibo lui-même, puisqu'on n'était qu'à 20 km de Djibo, aurait pu peut-être intervenir, ainsi de suite. Donc c'est des questions factuelles qui restent à résoudre.
En conseil de ministres ce mercredi, le ministre délégué à la Défense, Silas Keïta, a parlé de complicité malheureuse, j'utilise ses propres termes. Est-ce qu'il ne faudrait pas explorer aussi cette piste?
Le ministre parle en connaissance des causes et quand on regarde effectivement la façon dont les faits se sont déroulés, on peut émettre l'hypothèse que les terroristes disposaient d'informations trop précises en termes d'encadrement sécuritaire, de présence de l'hélicoptère. Donc c'est une possibilité.
La ville de Djibo est de plus en plus coupée du reste du Burkina Faso. Ce sont les ponts qui ont été dynamités entre-temps. Cette fois-ci, les convois sont attaqués. On se demande que deviendra Djibo.
Il y a plusieurs villes du nord du Burkina Faso qui sont dans cette situation. Vous savez aussi que Seba était également encerclé. Je crois deux ou trois jours avant Djibo, il y a eu un ravitaillement qui a pu passer par la route. Peut-être que le ravitaillement qui a pu arriver à Seba a dû faire penser aux autorités FDS que les terroristes avaient quelque peu relâché leur pression et que on pouvait donc aller avec un détachement un peu plus léger en ce qui concerne le convoi de Djibo. Ceci dit, l'attaque du convoi de Djibo va ramener un autre niveau d'analyse donc du conflit. Il faut augmenter les détachements militaires et puis les équipements qui sont sur le terrain.
L'analyse burkinabé Siaka Traoré, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Togo, la culture du soja est désormais ancrée dans les habitudes agricoles. Sa production connaît une hausse substantielle atteignant les 200 000 tonnes en 2021. La construction d'une usine de transformation dans la banlieue de la capitale va renforcer la culture de la céréale. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
Dans le village d'Atichohwe, dans la préfecture de Hao, à 115 km de la capitale, les habitants ne jurent que par la culture du soja. Pour Togbi Jaka Komi Woglo II, le chef du village, leur vie a changé avec l'adoption de la culture du soja.
Avant que nous ne fassions la culture du soja, je peux vous affirmer que la vie était un peu dure pour nous. Mais depuis que nous cultivons le soja, on note une vraie différence. À Atichohwe, nombreux sont ceux qui ont fait des réalisations ces deux dernières années avec le soja.
L'espoir d'une production plus grande anime beaucoup de sojaculteurs avec le soutien du mécanisme incitatif de la finance agricole, une structure mise en place par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole. Aristide Agbosoumande, le directeur général de la MIFA.
La filière soja est l'une des filières porteuses dans notre pays. L'une des préoccupations, c'est le financement des producteurs. Pour cette campagne-ci, nous sommes en train d'évaluer les besoins avec les agrégateurs pour que ces derniers puissent nous dire réellement leurs besoins en collecte.
Béret Aklesso, agrégateur travaillant avec une centaine de coopératives de sojaculteurs, témoigne.
Il faut dire qu'en 2020, nous avions distribué seulement que 5 tonnes de semences. Et aujourd'hui, en 2022, au niveau de la PIA-MIFA, nous avons reçu 30 tonnes de semences. Et nous-mêmes, avec nos propres moyens, nous avons dû acheter pratiquement 12 tonnes de semences, ce qui fait une bagatelle de presque 900 hectares emblavés. Nous attendons actuellement près de 1800 tonnes de soja qu'on doit pouvoir collecter.
Ces milliers de tonnes de soja viendront rejoindre celles de l'ensemble du pays pour être transformées sur place dans une usine d'une capacité annuelle de 250 000 tonnes nouvellement construite sur la plateforme industrielle PIA au nord de Lomé. Idiola Sanda, administrateur général de l'autorité de coordination de la PIA, donne plus de précisions.
Il y aura deux unités. Il y a celle qui va transformer le soja conventionnel et la deuxième unité va transformer le soja bio. C'est
une grande chance pour le Togo parce que à partir de maintenant, le soja que nous produisons, qui est très bien apprécié sur le plan international, nous allons le transformer sur place. Ça répond à la vision qui est de créer de l'emploi, de créer de la richesse au pays.
Les premières bouteilles d'huile de soja et les produits dérivés comme les tourteaux, les biscuits, les chocolats, la farine de soja sont attendus au dernier trimestre de cette année. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le fondateur du groupe paramilitaire Wagner sort de l'ombre. Dans un communiqué de sa société de restauration Concorde, Evgeny Prigogine, 61 ans et surnommé le cuisinier de Poutine, confirme qu'il a bel et bien fondé en 2014 le groupe Wagner, d'abord pour envoyer des volontaires dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. En 2018, ce groupe Wagner est accusé de prendre pied en Afrique. Trois journalistes russes qui enquêtaient sur les affaires de cette société paramilitaire ont été tués en Centrafrique. Éric Manirakiza a joint à Paris Sergei Genov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'Union soviétique.
Du coup, il sort de l'anonymat parce que tout simplement, à mon avis, il ne pouvait plus le nier. Parce que toute cette configuration qui pouvait paraître évidente, bien évidemment pour les gens qui sont les experts dans la question et pour les investigateurs, mais qui ne pouvait pas être affirmée tant qu'on n'avait pas les preuves documentaires. Donc tout ça est devenu évident après le début des opérations en Ukraine. Parce que Poutine, on ne sait pas pourquoi, a décidé d'employer la force de ses compagnies militaires, dont Wagner, parce qu'il n'y a pas que Wagner, il y a d'autres compagnies privées et militaires. Et donc, il a utilisé cette compagnie Wagner en Ukraine pour leur demander de faire des choses, des tâches que l'armée russe régulière ne pouvait pas faire, y compris les exactions, y compris les tortures, y compris des choses qui seraient réputées comme crimes de guerre autrement qu'à des mercenaires comme ça. Et donc, je crois que sous l'évidence, il ne pouvait plus nier, surtout lorsque Prigogine, en plus, a reçu l'ordre aussi de recruter les prisonniers pour les engager dans sa compagnie et pour les envoyer sur le front ukrainien.
Donc, Wagner, c'est pour faire le sale boulot. On sait que la société est impliquée dans certains pays en Afrique, comme en Centrafrique et au Mali. Que peut-on attendre de la Russie et de Wagner?
Déjà en Ukraine, c'est pour non seulement pour faire le sale boulot, mais aussi, disons, pour pas que les gens qui meurent pendant cette guerre augmentent les chiffres de pertes pour l'armée. Donc en fait, c'était une sorte la possibilité aussi de cacher les pertes sur le front. Donc c'était un avantage collatéral d'employer ces compagnies. Et d'autre part, ça donnait aussi un avantage énorme pour le budget de l'État russe, parce que l'État russe, quand il prenait des contractuels pour aller combattre dans cette opération spéciale en Ukraine, en cas de blessure ou en cas de perte, il devait payer des sommes assez importantes aux familles. Tandis que quand ces gens signaient un contrat avec la compagnie Wagner, le monde était complètement différent. Donc voilà, donc ça c'est le côté peut-être juridique et financier qui arrangeait peut-être l'État russe d'employer ces compagnies. Ce qu'ils font en Afrique, c'est un peu différent parce que, si vous voulez, ce n'est pas des batailles régulières, ce n'est pas la guerre, c'est plus des opérations spéciales, c'est plus les petits commandos. Et d'ailleurs, en fait, la plupart du temps, ils servent tout simplement de petites armées privées, style protection de personnalité. Et donc, ils fournissent les services de protection de personnes aux dictateurs africains qui sont sous le coup d'un coup d'État dans leur pays ou d'une contestation populaire dans leur pays. Donc voilà, ils rendent ce service-là. Ils font de la corruption des leaders africains. Et avec ces services-là et avec la corruption, ils s'achètent en fait pour eux-mêmes, pour Prigogine, mais aussi pour Poutine et pour un certain nombre de personnes autour de lui, la bienveillance de ces des dictateurs et la possibilité d'utiliser ou d'exploiter les ressources naturel de ces pays en faveur d'abord des intérêts privés de Prigogine et des gens qui sont autour de lui, y compris Poutine, et éventuellement pour la Russie en tant qu'État.
C'était Sergei Zhirinov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'Union soviétique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.